le magazine des Nations Unies.
La coopération militaire entre les FARDC et la MONUSCO doit se poursuivre. C'est en tout cas le vœu du commandant de la Force des Nations Unies, exprimé cette semaine à Kinshasa. Selon le général Derek Mukwege, l'accord signé en janvier dernier entre les deux parties était limité dans le temps. Les détails dans cette édition. UNFPA relance et renforce son partenariat avec l'IFASIC. Par ce partenariat, l'UNFPA offre aux étudiants de cette institution universitaire congolaise, entre autres, la possibilité de faire des stages, moyennant la réussite à un concours. Le PNUD accueille des journalistes et représentants des maisons des médias. L'événement s'est passé jeudi dernier à son siège à Kinshasa. C'était lors d'une journée porte ouverte. Occasion pour le PNUD de renforcer la compréhension de son mandat, mais également de rendre plus effectif son partenariat avec la presse. Les détails également dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de UN Mag. Le commandant de la force de la MONUSCO souhaite la poursuite des opérations conjointes avec les FARDC pour permettre à la mission onusienne d'accomplir son mandat, celui de la protection des civils, mais également la neutralisation des groupes armés. Le général Derek Mukwege a émis ce vœu à Kinshasa, c'était mercredi dernier, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Il a indiqué cet effet que l'accord conclu avec le gouvernement le 28 janvier 2016 sur ces opérations avait une durée de 6 mois. Les propos du commandant de la MONUSCO, traduits en français par notre collègue Yulu Kabamba, et recueillis par Honoré Missenga Kalala.
In our mind, it speaks mainly to the protection of civilians and neutralization of the armed groupings. You might be aware that on the 28th of January this year, there was a technical agreement which was signed between MONUSCO and government, more so the Department of Defense, which speaks to the resumption of military operations. That agreement was for 6 months. Then if you do your calculation between then and now, it's almost coming to an end. It will be at least now.
Il a été conclu un accord entre la MONUSCO et le gouvernement pour la reprise des opérations militaires. Ce fut en janvier le 28 et cela pour une période de 6 mois, donc dans sa première phase. Mais comme vous le savez, une période de 6 mois, ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse se livrer à beaucoup de réalisations. Le souhait est que ces opérations puissent se poursuivre et que les objectifs soient effectivement atteints. Lorsque je parlais de 6 mois, il s'agissait de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Une coopération qui nous permettra de définir le mode opératoire, comment nous allons procéder.
Autre grande nouvelle, c'est la relance du partenariat entre UNFPA et l'IFASIC. C'était le vendredi 22 juillet 2016 que la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, Madame Diène Keïta, et le recteur de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication ont inauguré cette relance au sein de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Suivez plutôt les axes de ce partenariat, expliqué par la représentante de UNFPA, au micro de Noré Missenga Kalala.
Nous sommes heureux de relancer aujourd'hui à travers vous notre partenariat qui va constituer de 3 thématiques majeures. Nous aurons bien sûr ce qu'on appelle des thématiques sur les séminaires de formation, sur toutes les problématiques de population. Et ces problématiques de population doivent être vues sous plusieurs angles. 1. Comment rendre compte de ces problématiques quand vous les comprenez. 2. Ce que ça implique pour votre pays. Quand on entend parler de dividendes démographiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que la jeunesse soit bien formée pour prendre la charge demain? Et pour vous-même, en tant qu'individu, ça veut dire quoi une problématique de population pour vous, en tant qu'individu? Et comment relayer ça dans la société? Ça, nos séminaires font partie de cela. À côté aussi, nous vous offrirons des stages pour les plus méritants d'entre vous. Évidemment, la conditionnalité pour le stage, c'est qu'on sera parti du comité de sélection et du comité de juge. Ensuite, après, au moment où vous diplômez. Ces stages sont très importants. Les stages à UNFPA, ce n'est pas de porter le café au superviseur, ce n'est pas d'aller faire des photocopies, c'est de contribuer à la connaissance et au partage du savoir et aller sur le terrain, mettre la main à la tâche. Donc ce sont des véritables stages. Quand vous sortez chez nous, vous savez travailler et c'est vraiment le but. Ensuite, nous voudrions lancer un concours parmi vous. un concours sur les questions de population, sur toutes les thématiques qui concernent notre mandat. Enfin, ce que nous aimerions faire aussi, c'est renforcer votre infirmerie pour les questions qui sont liées à la santé de la reproduction, pour les questions qui sont liées à la planification familiale, pour les questions qui sont liées aux maladies sexuellement transmissibles, pour les questions qui sont liées aux maladies non sexuellement transmissibles. Et surtout, pour vous apprendre à avoir un comportement décent vis-à-vis de vos pères, entre jeunes gens, entre jeunes filles, parce que c'est d'abord une question d'éducation globale. Et enfin, nous aimerions vous assurer de notre soutien au niveau technique, d'équipement, de ce qui pourra l'être fait dans le cadre de notre mandat et de la mission de l'université pour pouvoir améliorer votre environnement et aussi vous exposer à un environnement national et international qui sera à même de pouvoir vous permettre de devenir des professionnels exceptionnels pour le futur.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Bureau de consultance en genre et en développement œuvre pour la promotion des droits de la femme en RDC et bénéficie à cet effet de l'appui des agences onusiennes intéressées par cet objectif. La lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles, figure parmi les axes principaux de l'action de ce bureau. Messieurs Ediav, expert en genre de cette structure, répond aux questions d'Honoré Missinga.
Ediav, bonjour.
Bonjour Monsieur Honoré.
Quelle est la mission du bureau de consultance en genre et en développement?
La mission de cette structure est d'accompagner les femmes dans ce qu'elles font, mais aussi de vulgariser et de véhiculer le message relatif aux lois qui protègent les femmes. Au-delà de ça, le bureau a comme mission d'accompagner les jeunes dans ce qu'ils font pour que les droits soient promus. Voilà en grande ligne les quelques missions que le bureau poursuit.
Le 19 juin, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit. Qu'est-ce que votre structure a organisé par rapport à cette journée ?
En marge de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit, il conviendra de dire que les Nations Unies ont ce qu'on appelle la résolution 1325, qui actuellement a totalisé 15 ans. À l'intérieur de cette résolution, il y a une disposition qui évoque la lutte contre les violences sexuelles. Mais il conviendra de dire aussi que, au-delà du fait qu'il y avait cette disposition, les Nations Unies ont constaté que les atrocités envers les femmes et les filles étaient toujours persistantes. Et donc, en voulant éradiquer les violences sexuelles sous toutes leurs formes, alors les Nations Unies ont décrété le 19 juin de chaque année une journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, nous, principalement, le bureau ? Nous avons continué à sensibiliser les populations. Nous sommes passés par la radio Capi, par la télévision. Et l'UNFPA nous a soutenus pour que nous puissions atteindre en tout cas une majorité importante des personnes afin que la majorité soit au courant des avancées au niveau des textes juridiques. Même au niveau des églises, nous avons véhiculé le message pour que la population soit au courant et s'approprie de cette résolution qui est en vigueur à l'heure actuelle.
Oui, en dehors de messages dans les églises, quelle autre stratégie vous avez utilisée pour véhiculer ce message?
Un autre canal, c'est le milieu des jeunes. Nous avons commencé déjà à organiser quelques ateliers avec une poignée de jeunes parce qu'on s'est dit, cette question liée au genre, à la lutte contre les violences sexuelles, est une matière qui est souvent entretenue entre adultes. Mais on laisse la composante jeune, alors que les violences sexuelles se vivent à tous les niveaux. Aller dans les milieux où il y a une promiscuité aiguë, il se vit là-bas même des questions des viols. Donc nous avons estimé qu'il était utile pour nous aussi d'approcher la composante jeune avec laquelle conjuguer les efforts. Et donc on a commencé une série d'ateliers. On a commencé à Kinshasa, mais nous allons continuer en province. Mais aussi, nous avons touché les entreprises publiques. Vous savez que cette matière de lutte contre les violences sexuelles, c'est une matière qui est vaste parce que la lutte contre les violences sexuelles ne signifie pas qu'on les vit qu'en milieu de guerre, même dans les milieux domestiques. Et donc, nous avons touché les entreprises et à l'heure actuelle, nous avons sensibilisé la DGDA, l'INSS, CEP Congo, l'OCC, la DGRAD et donc on a une masse assez importante où nous véhiculons les messages sur la lutte contre les violences sexuelles.
Merci, je comprends bien ce message, c'est plus à Kinshasa. Quand vous parlez de toutes ces entreprises, c'est ici à Kinshasa.
Ah, du tout. Nous avons travaillé avec les quelques entreprises à Kinshasa, mais aussi nous travaillons avec les entreprises au niveau de toutes les 11 provinces avec l'ancienne configuration. Mais avec le nouveau démembrement, nous espérons que les directeurs d'entreprises qui nous écoutent, lorsque nous allons les approcher à nouveau, vont encore nous donner cette opportunité de pouvoir faire les 26 provinces pour véhiculer le message et que la population qui travaille s'en approprie.
Quand on parle de violences sexuelles ici en RDC, en période de conflit, on voit plus les contrées de l'Est qui sont depuis plus d'une vingtaine d'années confrontées au conflit armé. Est-ce qu'il y a des actions spéciales que vous avez menées ou que vous êtes en train de mener ou que vous projetez de mener dans cette région de l'Est du pays?
C'est vrai, la résolution qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies a évoqué la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Mais il convient de dire aussi que les violences sexuelles ne sont pas seulement vécues en situation de conflit. Chaque État membre des Nations unies doit contextualiser cette résolution. Et c'est vrai, la difficulté avec nos communautés locales, c'est souvent le manque d'informations. Et donc nous, comme bureau de consultance en genre, nous avons mis un accent particulier sur l'appropriation. Nous voulons que les populations elles-mêmes prennent la responsabilité de pouvoir éradiquer cette question des violences sexuelles. Mais aussi, nous savons que la difficulté, elle est grande. Elle est très grande parce que souvent, celles qui sont victimes des violences sexuelles, pour la majorité, ce sont les femmes qui sont démunies. Elles sont aussi à l'Est. Mais nous travaillons aussi avec des communautés, des organisations qui sont sur place, qui accompagnent les victimes, parce que souvent, quand quelqu'un est victime des violences sexuelles ou des viols au niveau des communautés de l'Est, la première chose, la personne est rejetée. La deuxième chose, l'enfant issu de ce viol est peut-être réprimé, et rejeté, refoulé. Et donc, comme bureau, nous travaillons pour continuer à sensibiliser davantage pour que les communautés sachent ce qu'il y a. Et donc, par rapport à la situation de l'Est, nous avons envisagé une descente probablement début août, où nous allons aller à Panzi pour essayer de commémorer. Peut-être je profite pour informer à la population que le 31 juillet de chaque année, l'humanité célèbre ce qu'on appelle la Journée internationale de la femme africaine. Et donc, nous nous sommes dit, entre la Journée internationale de la femme africaine et la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles, nous allons faire d'une pierre deux coups et nous allons descendre à l'Est du pays, principalement à Bukavu, où nous allons partager un sourire avec toutes ces femmes victimes de violences et qui sont prises en charge par les organisations sur place.
Alors, quels sont vos rapports avec les agences onusiennes? Vous avez parlé de UNFPA. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres agences?
Absolument. On ne peut qu'être en partenariat parce que cette interaction, nous qui sommes sur le terrain, nous qui travaillons avec le ministère de la Femme, nous qui travaillons avec les organisations communautaires, etc., nous ne devons qu'avoir parce que chaque fois, qu'on le veut ou non, il y a toujours des cadres qui nous réunissent. Mais aussi, je dois avouer que la dame qui s'occupe des questions du genre au niveau de l'UNFPA, en tout cas, elle a été pour nous un soutien indéfectible. Quand il y a des projets, par exemple, elle nous appuie et lorsque nous avons recueilli les éléments sur terrain, on essaie de les lui ramener comme UNFPA, mais aussi à d'autres comme ONU Femmes qui nous accompagnent. Et même quand nous sommes sur terrain, lorsqu'il est question par exemple de travailler avec les entreprises publiques de l'État, nous recourons auprès des agences du système des Nations Unies et elles sont là. Il y a Madame Catherine de ONU Femmes, il y a Madame Mireille Colli, il y a Monsieur Ngoy de UNFPA. Et donc il y en a bien d'autres qui viennent. En tout cas, la collaboration elle est parfaite. Mais je regrette quand même, peut-être je vais l'évoquer, le départ de Madame Elsie Efanyembela qui était ici à la division genre, qui en tout cas nous a soutenus avec deux mains. Au début, lorsqu'on était en train d'installer le bureau, elle a été pour beaucoup, elle nous a soutenus pour que le bureau s'approprie de la documentation et participe à des grands panels au niveau régional, à Gaborone, à Addis et peu partout. Et donc la collaboration pour répondre à cette question, elle est parfaite, je dois l'avouer, parce que je suis au quotidien avec tous ceux qui travaillent avec nous.
Monsieur Diav, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Lancement ce mercredi 23 juillet à Kinshasa de l'initiative All In, traduisez tous ensemble, une initiative mise en place en 2015 par l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS, UNFPA et d'autres partenaires qui visent à améliorer les résultats VIH-SIDA chez les adolescents et jeunes en incitant les États à modifier leurs politiques de façon stratégique et impliquant davantage les jeunes et adolescents dans les activités de riposte au SIDA. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangé, a pris l'engagement solennel de mettre les adolescents et les jeunes au cœur de cette action et a donc invité chaque partenaire à en faire autant. Rendons-nous à Calémie où le conseil d'administration Awad a décerné un diplôme d'excellence à la division de l'info publique de la MONUSCO Calémie dans la catégorie encadrement de la jeunesse ainsi qu'un trophée au cours d'une cérémonie organisée cet été. Pour rappel, le conseil d'administration Awad est une association qui récompense les initiatives, la créativité et les contributions des acteurs intervenant pour le développement socioculturel de la ville de Calémie. Enfin, terminons par ce plaidoyer du PNUD et du CAFCO pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en RDC. Du 27 au 29 juillet dernier, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec le soutien du PNUD, a organisé un atelier à Kinshasa en faveur de 50 femmes politiques issues des partis politiques, de la société civile et du ministère de la Femme, Famille et Enfants. Objectif, améliorer les capacités d'action des femmes leaders soucieuses de se lancer en politique lors de prochaines élections, mais également soutenir les efforts de celles qui veulent devenir actrices du changement.
Magazine des Nations Unies, invité.
Nous le disions en titre, une trentaine de journalistes et responsables des maisons de médias ont palpé du doigt les différents programmes du PNUD, ainsi que les opérations qui appuient ces programmes. C'était jeudi dernier au siège de cette agence onusienne à Kinshasa, à l'occasion de la journée porte ouverte aux médias. Occasion pour Madame Rossignol, chargée de la communication au PNUD, d'évoquer le partenariat PNUD-Média dans la perspective du renforcement de l'appui programme au gouvernement congolais. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des communications ici au PNUD. Le PNUD vient d'organiser des journées portes ouvertes aux médias. Et quelle est l'importance que vous donnez à ces journées qui se sont déroulées aujourd'hui au sein du PNUD?
C'était important pour le PNUD d'ouvrir ses portes aux journalistes et de permettre un espace de rencontre avec les différents experts thématiques, mais aussi avec notre service opération et bien évidemment avec la direction du PNUD pour pouvoir mieux faire connaître le mandat du PNUD, mais aussi les appuis qui sont donnés à la République démocratique du Congo et les efforts qui sont engagés en faveur du développement.
Justement, en ce qui concerne ces partenariats que vous venez d'instaurer avec les médias, comment vous les percevez, ces partenariats, dans le futur? Parce que le PNUD a besoin de faire connaître son appui aux efforts du gouvernement pour le développement de la RDC.
Oui, le PNUD a besoin de faire connaître ses partenariats, son appui, mais aussi les médias jouent un rôle extrêmement important en termes de sensibilisation et de conscientisation sur les thématiques liées au développement. Et donc pouvoir renforcer le partenariat avec les journalistes, c'est aussi renforcer la proximité avec la population et faire passer des messages sur les thématiques de développement, que ce soit le développement durable, la réintégration, renforcer l'inclusion économique pour les populations les plus démunies. Et donc, ce partenariat avec les journalistes est vraiment un élément clé pour cette proximité avec la population.
Et alors, on a parlé tout à l'heure là, du renforcement des capacités des journalistes et vous avez évoqué différents aspects. Est-ce que vous pouvez les répéter ici pour nos auditeurs de Radio Capi pour qu'ils comprennent un peu ce que vous allez faire?
Alors, nous avons commencé ici en 2016 un renforcement, on va dire thématique. Donc, au premier semestre 2016, il y a une formation qui a eu lieu pour les journalistes de l'Est sur les thématiques genre et VIH. Donc comment on parle du genre et des thématiques santé?
C'était à Goma.
C'était à Goma avec une vingtaine de journalistes. Et donc ces personnes ont eu 3 jours de formation pour renforcer un peu leur expertise dans ces domaines. Nous allons avoir 2 formations sur les objectifs de développement durable, hein, les nouveaux objectifs de développement. Et donc, à nouveau, c'est pour renforcer l'expertise des journalistes dans ces thématiques-là et pour leur permettre, d'intégrer ces thématiques dans la création des reportages.
Et là, c'est encore à Goma ou bien à Kinshasa?
Ce sera à l'Est et à Kinshasa. Donc, 2 formations pour les journalistes, des alentours de Kinshasa et de Kinshasa, et pour les journalistes de l'Est, Bukavu, Goma et Bunia. En termes de formation, nous avons aussi un partenariat avec les écoles de journalisme et de communication, et nous allons accueillir des jeunes stagiaires en communication au sein de notre service communication.
Ça, c'est pour l'année 2016?
Alors, nous sommes en train de clôturer l'appel aux candidats des stagiaires, et donc les premiers commenceront au dernier trimestre 2016 et nous poursuivrons avec d'autres stagiaires en 2017.
Et cet appel, on peut l'avoir sur votre site?
Oui, l'offre est présentée sur le site du PNUD, www.cd.und.org.
Alors, il y a aussi les radios communautaires qui participent à l'effort même du développement de la RDC. Est-ce que vous avez un projet de ces côtés-là en ce qui concerne la formation même de ces journalistes, notamment à l'intérieur du pays?
Oui, nous avons plusieurs projets qui soutiennent les radios communautaires. Il y a des renforcements des capacités, mais également il y a eu des appuis pour la production des émissions en langue locale, donc toujours dans un souci de proximité avec la population.
Et vous êtes là depuis la démocratie depuis combien de temps ?
Alors je suis arrivée au mois de mars et précédemment j'étais en poste au Burundi pendant 4 ans.
Vous avez une perception de la presse congolaise pour terminer, madame ?
Bon, c'est extrêmement riche. Je vois que les radios sont extrêmement importantes pour la population et que les gens s'intéressent à énormément de choses et que les médias jouent vraiment un rôle très très important dans la marche en avant de ce pays.
Alors, Madame Ressignol, Radio Capivora, merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous restons à Kinshasa pour la nouvelle de province. Nous l'avions dit dans l'invité, le PNUD a organisé jeudi dernier la journée porte ouverte aux journalistes et représentants des médias congolais internationaux. Jean-Pierre Lalikoko a couvert cet événement. Suivez plutôt son reportage.
Le PNUD compte deux composantes, les programmes et les opérations qui les appuient. Déclare d'emblée Clarisse Moussemé, associée à la communication, en nous recevant dans son bureau situé au premier étage de l'immeuble Le Sona. Première étape, l'unité achat, puis la gestion des ressources humaines et bien d'autres. Dans la salle de réunion de la composante, le directeur pays adjoint chargé des opérations explique.
Des achats. Au niveau donc du PNUD, on estime que la grande partie donc du delivery, c'est-à-dire des opérations, transite par cette unité donc des achats. Il y a une unité qui s'occupe donc de la gestion financière. Nous avons également une unité qui s'occupe donc des outils informatiques. Nous avons une autre unité qui s'occupe de l'administration générale. Parce que vous savez, le PNUD, le représentant du PNUD, il a plusieurs chapeaux, en particulier dans ce pays, mais en général, le représentant du PNUD, il est également donc le coordonnateur résident. Donc, à ce titre, donc, il gère tous les aspects liés à la sécurité et à la clinique. Et enfin, maintenant pour assurer donc un contrôle interne, une unité de contrôle interne.
La transparence est l'un des principes qui régissent le PNUD et qui fait la renommée du programme dans le monde.
Le travail que nous faisons effectivement, est basé sur des principes. Donc, les principes généraux vraiment qu'on observe aussi bien au niveau donc du recrutement ou bien au niveau des achats, c'est vraiment le principe donc de transparence. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, il y a le principe de mise en compétition. C'est-à-dire que au niveau du PNUD, vraiment la règle d'or, c'est la compétition ouverte. Il y a donc le principe de l'intégrité et il y a bien sûr ce qu'on appelle l'intérêt de l'organisation. Tout ce que nous le faisons dans le cadre donc de l'intérêt du PNUD. J'aimerais insister vraiment sur la transparence parce que vous le savez peut-être, depuis 2 ans, le PNUD est la première organisation en matière de transparence dans le monde.
Le journaliste visite ensuite le bureau qui abrite les piliers de développement, à savoir environnement et changement climatique, énergie durable, planification, la gouvernance qui inclut l'appui à la réforme de la justice et de la sécurité et bien d'autres unités transversales. Enfin, les piliers politiques et stratégiques jouent le rôle de conseiller du gouvernement en matière politique et stratégie du développement. Le clou de la rencontre est sans doute les échanges dans la salle de réunion. Ici, le décor est planté. Le directeur pays s'est fait entourer de ses collaborateurs et retrace l'importance de la rencontre.
L'objectif, comme on l'avait dit lorsqu'on vous avait rencontré, c'était vraiment d'ouvrir nos portes, que vous redécouvriez le PNUD et que vous ayez l'opportunité d'interagir avec nos collègues, d'en apprendre plus sur nos interventions.
Enfin, Madame Priyar-Gajraj revient aussi sur le mandat du PNUD. Son institution totalise 40 ans d'existence en RDC.
Le mandat du PNUD est un mandat qui cherche à soutenir le développement de manière multidimensionnelle. Notre objectif, c'est d'éliminer la pauvreté et de réduire les inégalités et l'exclusion. Et on le fait en intervenant à travers différents domaines, le renforcement de la démocratie et de la paix, la protection de l'environnement, la résilience et la stabilisation.
Des questions intéressantes enrichissent ensuite les débats. C'est aux environs des 14 heures, dans une ambiance bon enfant et autour d'un pot de vin, que se termine la rencontre.
Magazine des Nations Unies, session aux Nations Unies.
Oui, des projets village-école assainie qui sont posés mercredi dernier à partir de Goma à Florence Marchal. Suivez.
Patrick Félix Abeli de Pop Channel et le journal Le Grand Kivu.
Madame Marchal, je voulais savoir un peu comment évolue le projet village et école assainie. Comment vous évaluez ces projets par rapport aux objectifs voulus?
À ma connaissance, les projets village et école assainie vont très bien. Ce sont des projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec le soutien de partenaires, notamment au sein du système des Nations Unies, l'UNICEF. On a été amené à vous parler assez souvent de ce qui était fait dans ces villages et écoles assainies. Mais je note bien la question et la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, on demandera à un collègue de l'UNICEF de venir faire un point sur le soutien de l'UNICEF justement dans la mise en œuvre de ce programme village et école assainie n'est pas au point mort.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Agathe Mpona Minga, mais on m'appelle Agathe Mpona Elema du nom de mon mari. Je suis donc mariée et mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Comme formation, j'ai fait information et communication aux facultés catholiques de Kinshasa, actuellement UCC, Université catholique du Congo. Actuellement, à la Radio Capi, je travaille comme reporter et animatrice pour le service des programmes de Radio Capi. Je fais différents reportages sur la problématique, en général sur la thématique des femmes, mais aussi d'autres reportages et j'anime l'émission Découverte en semaine. Je travaille à la Radio Capi depuis presque 10 ans maintenant. Concernant mes tâches quotidiennes, bon, comme je l'ai dit, je suis reporter et animatrice, donc quand ce sont les jours où je dois faire des reportages, il faut me creuser la tête, trouver des sujets, trouver des invités, les contacter, descendre dans la rue, balader mon micro, voilà, c'est le travail du reporter. Et quand il s'agit d'animer, il faut apprêter les conducteurs, voilà quoi, c'est ça le travail aussi d'animateur, donc c'est un peu ça, comme ça que je meuble mes journées au travail. Mon parcours avant de venir à Radio Capi, alors j'ai fini les études en 2006. Avant déjà, je travaillais dans une agence de publicité avant de terminer les études. Et juste après mes études, j'ai terminé donc en deuxième session, ça fait quoi, octobre. C'est en janvier que j'étais programmée pour faire un stage à la Radio Capi, en janvier donc de l'année 2007. Voilà un peu mon parcours avant la Radio Capi. Ma plus grosse expérience, elle s'est donc constituée ici à la radio. En dehors du travail, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai ma maison qui me prend aussi beaucoup la tête, mes enfants, mon foyer et tout. Mais à part ça, j'ai beaucoup d'activités à l'église où j'encadre les jeunes. Et à part ça, c'est la famille, les visites en famille, un peu de lecture aussi, des séries télévisées que j'aime beaucoup. Donc voilà un peu comment je meuble mon temps en dehors du travail. Mes préférences en matière musicale, bon, je suis beaucoup plus dans le gospel. Mais le sport, c'est pas trop mon fort. D'ailleurs, quand mon mari regarde le match, moi, je somnole au salon. Donc, je suis pas trop sport. En matière de nourriture, bon, faut dire que j'ai pas trop de choix. Ce qui est bien préparé, je mange, voilà. Je pense que je peux dire ça. Concernant mes projets d'avenir, après avoir fait 10 années ici à la Radio Capi, j'ai vraiment envie de faire un break et puis recommencer d'autres études et peut-être me relancer, si pas dans le domaine de la communication toujours, dans une autre filière, mais j'ai envie de rentrer un peu aux études et acquérir un autre diplôme. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous dans vos agendas, mesdames et messieurs, du 1er au 7 août. Notez que la communauté internationale célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et le thème choisi cette année est « Allaitement maternel et développement durable ». Ce C'est à la fin de ce magazine des Nations Unies qui a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honorine Singh a été au reportage, Martin Seboujango l'a supervisé. À la mise en onde, Jean-Claude Kiala, moi c'est Tina Salama. On se retrouve avec le même plaisir dimanche prochain. Vous voulez réécouter ce magazine? Une seule adresse, www.radiotapi.net. A très bientôt.